L'envolée au procès de l'évasion de la centrale de Moulins de février 2009, procès qui se déroule du 2 au 19 avril à la cour d'assises de Lyon. Nous vous relatons maintenant la journée du mercredi 10 avril.
Alors le matin, on va commencer par un expert en balistique qui s'appelle Monsieur Attard, qui est assez édifiant hein, dans son expertise et sa scientificité. Donc lui, il a expertisé la salle dans laquelle il y a eu des coups de feu à la centrale de Moulins. D'abord, il a expertisé ça. Donc c'est la salle où il y avait le portique et le tapis roulant pour l'entrée des visiteurs et visiteuses au parloir, où il y a eu des coups de feu, donc, comme je disais. Et surtout, ce qu'il explique, c'est qu'en fait, quand il est arrivé à la centrale pour faire son expertise, tout avait été réaménagé, les trous d'impact de balles avaient été rebouchés, la vitre cassée avait été remplacée, etc. Au sujet d'ailleurs de ces trous d'impact de balles rebouchés, Maître Ripert dira, mais vous auriez peut-être pu gratter un peu. Parce que lui, il dit qu'il peut même pas voir dans quel sens est rentrée la balle dans un montant de porte, par exemple. Donc bref, cette expertise balistique, elle est un peu nulle, elle sert à pas
Bon, en
grand-chose.
fait, on comprend qu'il a bossé que sur une photo.
Oui, voilà, il a bossé à partir de photos qui lui ont été fournies.
Deux photos, je crois.
Deux photos qu'on voit parce qu'il travaille avec un écran de malade
Ils
là,
savent pas
avec
leur
un
code.
exposé pour enfants là, et on voit les photos et c'est hallucinant de bosser
On voit
là-dessus.
un
On voit
trou
rien
dans un truc
quoi,
bleu,
c'est
et
ça,
voilà.
agrandi, entouré en jaune pour pas qu'on rate.
Voilà, et d'ailleurs, donc Maître Ripert dira aussi, donc au sujet du fait que tout a été réaménagé et que donc il a bossé sur rien du tout, il n'y avait plus de traces de rien. Il dit la scène est maquillée alors que ça ne portait pas atteinte à la sécurité de l'établissement. Il s'agissait donc de dissimuler un certain nombre de choses, comme à Fresnes, même nettoyage. Parce qu'effectivement, s'ils ont levé, ils ont par exemple changé une vitre dans laquelle il y avait des impacts de balles, et ces impacts de balles, ils ne changeaient rien du tout à la sécurité de l'établissement, mais bon, ouais.
Et puis ils auraient pu changer la vitre, mais garder
Garder
la
la vitre.
vitre, ce qui n'est pas le cas non
Elle a
plus.
disparu. Voilà, après il a aussi expertisé la voiture, donc la Phaéton dont on parlait pour la veille, dans laquelle, donc à la fin, Omar et Christophe ont été arrêtés, enfin aux abords de laquelle ils ont été arrêtés. Et donc lui, il dit qu'on a retrouvé une douille percutée du pistolet de Christophe dans la voiture. Et le parquet se saisit immédiatement de ça pour faire dire à Christophe qu'il a bien tiré à ce moment-là. Donc dans la voiture. Mais Ripert dit, il n'y a pourtant rien dans ce dossier qui mentionne cette douille percutée, c'est une invention. Donc une douille percutée, donc pour expliquer ce qu'on a appris avec ce cher expert en balistique, c'est le machin qui saute, qui l'espèce de bout de ferraille qui saute du flingue quand une balle a été tirée, hein, si j'ai bien compris.
Ouais, mais du coup, il n'y a pas un témoin qui parle de ce coup de feu de la part de Christophe, là. Personne ne parle jamais de ça. Et l'avocat général, du coup, il dit à Christophe, alors c'est quoi ce truc? Et Christophe, il dit, mais j'en sais rien, en fait. Et du coup, il se retrouve même lui-même à devoir essayer de broder un truc. En gros, on essaie de lui prendre la tête sur un truc qui, en fait,
Qui
s'avère
n'existe
complètement
pas.
faux, quoi.
Voilà, donc l'expert, il confirme que à ce moment-là, donc si vous vous souvenez de ce dont on a parlé la veille, l'expert confirme les deux premiers tirs du policier Grandjean, qu'ils ont bien été tirés à l'arrière du véhicule, donc vers l'arrière, et que donc la version de Grandjean n'est pas compatible et que celle de Christophe l'est. Alors là, le président dit aller chercher les armes parce que, en fait, je sais plus pourquoi, soi-disant, il y a besoin de
C'est
précision avec les armes.
la proc, là, c'est le ministère public encore qui est. En fait, je sais pas, ils ont vachement l'habitude de faire ça dans les procès, là, de sortir les flingues pour impressionner les jurés, quoi. Et du coup, elle a
Voilà.
vachement envie de ça, alors que ça justifie pas du tout, en fait, c'est
Alors
une
que ça va
flingue.
prouver rien du tout, mais ça permet de sortir les flingues
C'est
et
ça.
de jouer avec,
Du
quoi.
coup,
C'est
on
un
les sort des
peu le qui a la
CD.
plus grosse, parce que
Ouais,
du
c'est
coup
ça.
on voit le flingue du maton et le, comment s'appelle, le Glock.
Le
Et
Glock.
le Glock que du coup ils avaient.
Du coup, il y a l'expert qui joue avec les flingues devant tout le monde, comme ça. En fait, les jurés n'ont vraiment pas grand-chose à foutre, finalement.
Rien du
Les
tout.
seuls que ça intéresse un peu, c'est les matons, parce que eux, la plupart du temps, ils sont privés de flingues, et on les sent bien qu'ils sont un peu excités, comme ça, de voir ce truc devant eux, là. Mais à part ça a été un effet de manche plutôt raté, quoi.
Ouais. Et ensuite, parce qu'il y a aussi dans la foulée l'audition de l'expert médical, le docteur Rosati. Et donc, qui a par exemple, entre autres, expertisé Christophe sur ses blessures suite au fait qu'il soit fait tirer dessus au moment de l'arrestation. Et Maître Hyper demande au médecin légiste s'il était opportun de tirer Christophe de la voiture et de lui mettre un genou dessus, alors qu'on le rappelle, il venait de se faire tirer dessus. Et là, le médecin répond très doctement que ça ne rentre pas dans le cadre des techniques de réanimation. Et Maître Ripper surenchérit et demande le faire dormir sur un lit en béton ensuite pendant 45 jours au mitard. Et là, pareil, elle dit que pour des côtes fracturées, ça aurait peut-être été mieux un lit un peu plus souple.
Parce que Christophe, il se fait tirer dessus, après il passe combien de jours à l'hôpital? Il passe
Une semaine, je crois, 3 jours en réanimation, une semaine je sais pas où, et derrière, direct, 45 jours de mitard.
Voilà, et elle précise aussi que 30% des plaies balistiques intrathoraciques sont mortelles. Ça veut dire en gros qu'il aurait très bien pu y passer vu qu'il s'est fait tirer dans le poumon.
Mais même elle le dit, je crois, elle dit sans soin, il était mort.
Ouais.
Et sa version à elle aussi, rien que sur l'analyse du tir, d'ailleurs, dit que c'est pas compatible avec la version du policier, que c'est vraiment celle de Christophe, parce que si le flic lui tire dessus alors qu'il y a une portière, la balle à l'intérieur de son corps, elle aurait fait des ricochets, je sais pas quoi, que là la trajectoire est droite, elle est dans ce sens-là, tout ça.
Qu'il était bien de face.
Qu'il était bien trois quarts face. Enfin voilà, il dit, il n'y a pas à chier, c'est comme ça qu'on lui a tiré dessus, c'est tout, un tir direct. Voilà.
Donc on le redit, hein, ça fait que y a vraiment eu une tentative d'exécution sous ce tunnel.
Qui est
maquillé.
Maquillé, voilà.
Très mal maquillé.
Pas très bien. Mmh. Et d'ailleurs, là, justement, Omar intervient encore et dit, donc, quand elle parle de la reconstitution, et il dit, ça s'est passé comme ça. En fait, il explique que la reconstitution a été faite à Lyon, sous un tunnel à la Croix-Rousse, je crois, alors qu'en fait, le tunnel où ça s'est passé est à Paris. Donc, il explique déjà que ça n'a rien à voir.
Que c'était une voie à double sens, alors que là on l'a fait. Non, c'était une voie à sens unique à Paris, et là on l'a fait sur une voie à double sens, et on a même retiré les camions pour pouvoir prendre des photos. Ça fait que c'est.
Ça fait que ça ressemble plus à rien, là.
Ça fait voilà. Que c'est une reconstitution.
Et il rappelle que l'arrestation était sous un tunnel vidéo surveillé et qu'il a demandé à avoir les bandes et qu'il n'y a jamais eu accès. Voilà, donc le mercredi après-midi, on passe à l'audition de Nadia.
Bon, on peut quand même dire cette petite perle du juge, là. Donc Omar, il passe quand même son temps à faire des petites piques, des petites blagues et tout. Et donc là, il re-raconte la version des flics, à savoir que... Non, c'est ça, en fait. Ripper lui dit... Je sais plus qui est-ce qu'il lui demande, en fait.
Ouais,
il y a quelqu'un
Ripper.
Qui... Ripper, il lui dit, bon, mais alors, monsieur Top, donc, vous êtes descendu du véhicule, donc vous avez ouvert la porte, vous êtes descendu du véhicule, vous avez fermé la porte. Et Omar a dit, non mais oui, c'est ça, oui, j'ai ouvert la porte, et puis je l'ai refermé bien gentiment et tout. Non, j'ai ouvert la porte et je suis parti comme un ouf en courant, machin. Donc là, ça commence à rigoler un peu dans la salle et tout. Et là-dessus, on a le président qui fait, mon Dieu, dans quel état sommes-nous? Et la matinée se termine là-dessus.
Bon appétit.
Bon appétit.
Voilà. Donc, le mercredi après-midi, on passe à l'audition de Nadia. Donc... Elle va commencer par dire qu'elle reconnaît sa participation au fait qui lui sont reprochés, c'est-à-dire d'avoir fait rentrer du matériel dans la prison. Elle dit qu'elle ne savait pas ce qu'il y avait dans ses paquets et qu'elle a découvert qu'entre autres c'était un pistolet le dimanche matin. Qu'avant, Eugène lui avait demandé de faire rentrer un téléphone et du shit en échange de 2000 euros qui lui seraient donnés par quelqu'un. Elle dit n'avoir jamais été au courant d'un procès d'évasion, que Sylvie non plus ne l'était pas. Non, elle dit n'avoir jamais été au courant d'un projet d'évasion et que Sylvie ni Eugène ne lui en ont parlé. Elle répond au juge la même chose que Sylvie, elle ne sait rien. Et elle dit même, et Sylvie ne sait pas que je ne sais rien. En fait, une fois de plus, elle dit que c'est du non-dit entre elles, ouais. Qu'elles ne se disent pas les choses explicitement et que c'est tout tacite. Voilà, le juge lui fait porter une part importante de responsabilité en lui disant « Est-ce que vous comprenez que vous êtes le maillon indispensable de cette évasion ?» Parce que donc on rappelle que le fait qu'elle ait des broches métalliques dans le dos suite à une opération effectuée il y a longtemps fait qu'elle sonnait au portique détecteur de métaux et que donc il la laissait toujours rentrer même si elle sonnait et que donc c'est comme ça qu'elle a pu faire rentrer du matériel. Et donc le président lui dit, avec le recul du temps, est-ce que vous réalisez ? Voilà, elle, on a déjà parlé du fait qu'elles ont eu toutes les deux, elle et Sylvie, pas mal de dépositions diverses et contradictoires. Et à certaines dépositions, Nadia a dit que Sylvie l'avait menacée et que c'est pour ça qu'elle avait commis les actes qui lui sont reprochés. Et elle ne dit plus ça maintenant, à la barre. Et les juges, procureurs et partie civile font tout pour qu'elle charge les autres.
Mais du coup, Nadia, elle redit, comme Sylvie l'avait dit, elle redécrit les techniques policières en fait, pour te faire craquer pendant une garde à vue. Et comment on a raconté n'importe quoi sur Sylvie, comment on lui a fait des menaces sur ses enfants. En l'occurrence, s'il y a bien des gens qui ont menacé ses enfants, c'est les flics. En gros, tu vas passer ta vie en prison si tu commences pas à nous donner à manger, quoi, c'est ça le truc. Du coup, voilà, l'une comme l'autre, elle rappelle vraiment ce truc. Cette technique dégueulasse.
Voilà, et là, elle tient cette fois à insister sur le fait qu'elle n'a pas été mise sous pression par Sylvie. Et elle charge Eugène en disant que c'est lui qui lui a demandé de le faire. Et elle ne dit pas un mot sur les deux autres accusés. Elle dit qu'avec Sylvie, elles se sont rencontrées en étant deux femmes de parloir qui vont dans les mêmes parloirs. Que Sylvie... l'a aidée quand elle l'a vue débarquer toute neuve, un peu perdue, au parloir à Moulins, et qu'elle se connaissait depuis 3 mois, quand Eugène a été transféré à Moulins.
Non, au moment où il est transféré. Ouais.
Alors ensuite, c'est Eugène Baeb qui va répondre à des questions. Donc lui, il maintient sa version selon laquelle il n'était au courant de rien. Que les seules fois où il a... en fait, il a déclaré plusieurs fois à la police et au juge d'instruction qu'il était responsable et au courant dans cette affaire, mais il dit que ce n'était que pour blanchir Nadia, que donc les policiers, en fait, lui ont dit que Nadia, elle était incarcérée et hospitalisée, et donc lui, il dit que... tant qu'elle était dans cette situation, lui, pour la protéger, il se chargerait lui-même. Donc il a fait ça. Qu'est-ce qu'il dit ?
Et maintenant, il est plus au courant de rien. Quoi. Il n'a jamais rien fait.
Voilà, et il dit qu'à partir du moment où elle s'est retrouvée dans une situation de détention moins dure, selon lui, il a pu commencer à donner la vraie version, qui est qu'il n'a jamais été au courant de rien, il n'a pas participé. Voilà. Ensuite, on passe à l'examen de personnalité de Christophe Kider.
Appelé le CV.
Mmh. Ouais, c'est
notre
charmant.
Curriculum vitae.
Bon, ça, c'était un moment assez fort quand même. Avant de dire un peu dans le détail et tout. Enfin, moi, en tout cas, je trouve que c'est un moment assez fort. On sent bien que Christophe, c'est un mec qui n'a pas du tout l'habitude de parler de lui. Et là, en l'occurrence, le juge, il va lui lire la plupart des trucs auxquels il va lui demander de répondre. C'est les déclarations qu'il a fait au juge d'instruction. Charret, c'est ça. Auquel apparemment il a dit un peu plus de trucs que ce qu'il a l'habitude de dire d'ordinaire. Quoi. Sur lui. Hein. Et du coup, bon, Christophe, il se retrouve dans cette situation un peu. Il était d'un pied sur l'autre, comme ça, hyper speed. Et il répondait de manière très laconique, la plupart du temps même très ironique, avec beaucoup de petits traits d'humour et tout. Il suait à grosses gouttes, enfin, on sentait vraiment qu'il n'aimait pas du tout cette situation et tout. Mais il a plutôt parlé d'or encore à ce moment-là.
Ouais, en plus, ouais, c'est hyper gênant de devoir raconter sa vie devant un tribunal.
En l'occurrence, un CV, en plus, c'est pas ta vie.
Un CV, et en sachant que ça va être surtout retenu à charge et que n'importe quoi va être mis à charge, quoi.
Mais à ce propos, peut-être on peut rajouter que même si, en acceptant Eugène Baeb, qui quand il parle, on comprend pas bien... ce qui veut dire à part se défausser, quoi. Donc du coup, ça donne un propos qui est souvent relativement curieux, pour pas dire gênant. Même si tous les autres, que ça soit Omar, qui lui, avec ses petites piques, dit des choses tout à fait justes, pas relativement, tout à fait justes, sur la détention, sur la justice... des petites phrases, mais enfin, qui placent, ils ne demandent jamais l'autorisation de parler, Il parle assis et assez fort pour qu'on l'entende, on comprend toujours. Et à chaque fois, ça énerve le président et tu dis, oh, ça va, hein, monsieur Top. Les filles qui chacune parlent avec leur accent de sincérité, voilà, qui disent ce qu'elles ressentent, ce qu'elles ont à dire. Et on peut quand même dire que Christophe, il a quand même une façon de parler qui, à chaque fois, assoit tout le monde,
Ouais, c'est ce que
c'est-à-dire
tu
la salle, comme les jurés, etc. Je pense pas que ça fasse grand-chose au ministère, au parquet, parce que de toute façon, je sais pas de quoi ils sont faits, mais enfin, ça va être une autre matière.
C'est une meupette chaude, là.
Ouais, et le bicéphale, là. Mais vraiment, il a une façon de s'exprimer et de dire avec une clarté, une espèce de lucidité, les choses sans fiel, quoi,
C'est
avec
implacable, quoi.
ouais.
C'est toujours, c'est implacable. Il n'y a pas de hargne, il n'est pas en train de, je sais pas quoi. Il dit juste des genres de vérités froides, implacables, juste, quoi. Enfin,
Ouais.
il est très laconique, en fait. Lui, c'est pareil. Quand il parle, il dit trois phrases de suite, grand maximum, mais avec juste cinq mots par phrase qui sont les mots qu'il faut dire, quoi, un peu.
Voilà, c'est la petite précision.
Ouais, ok. Donc, en fait, même si, en fait, ça fait chier de voir quelqu'un qui se retrouve un peu contraint de devoir raconter son CV, comme ils disent, ben, il l'a raconté, donc on va en restituer un peu. Donc déjà, il explique qu'il n'est pas allé longtemps à l'école, qu'il n'aimait pas ça, en disant, pour moi, c'est un peu comme la cour d'assises, c'est long et c'est pénible. À un moment, il a été chez les jésuites. Il dit qu'il l'a vécu comme une préparation à la prison. J'ai été frappé par les pions comme par les curés. Vous savez, il aimait bien le sang du crime et il
Du
était du
Christ.
Christ, ouais. Et il était un peu nerveux.
Il parle du curé en fait. Et il dit ouais
Ouais.
bon le curé il aimait bien le sang du Christ. Faut comprendre le pinard. Vous aimez bien le sang du. Il aimait bien le sang du Christ, mais il était quand même un peu nerveux sur les histoires de psaumes et les machins. C'est un mec qui avait la main lourde apparemment.
Donc, superbe éducation, n'est-ce pas? Il dit que chez les jésuites, il y avait même un mitard, que ça s'appelait pas comme ça, mais que en fait, bah, il s'est rendu compte que c'était la même chose qu'un mitard. Et d'ailleurs, il dit au président, vous savez ce que ça veut dire, vu que le président essaye de faire style, il est copain-copain, en disant, moi aussi, je sais ce que c'est que d'être chez les jésuites. Bon, ça.
Ah, on a eu un petit aveu du président, quoi. C'était joli, quand même.
Donc il dit, c'est dans ma 15e année que ma vie d'adulte a commencé. Je vivais par mes propres moyens, par le vol. Ma première détention, c'est à 17 ans. J'ai été condamnée à 5 ans, dont 3 fermes. À l'époque, je faisais des braquages d'agences de voyage et de change avec une arme factice. Il a été placé 3 ans au CJD, donc Centre pour jeunes détenus. C'était très violent. Moi, je ne suis pas ba bagarreur, mais il faut s'y mettre, comme tous les autres d'ailleurs. Ensuite, il explique qu'en 95, il a pris 30 ans de prison ferme, que malgré que le procureur avait demandé 20 ans, ben, on lui en a collé 30. Alors, à la question sur les loisirs qu'il fait, la boxe, le tennis, le foot, le basket, mais maintenant, là où il est en prison, il n'y a que la boxe, parce que pour le reste, il n'y a pas assez de place. Et là, il ajoute qu'il y a aussi. C'est lui ou le président qui ajoute? Et puis, il y a l'évasion, et ça, c'est un sport.
Non,
C'est
c'est
lui,
lui.
ça.
Christophe, c'est lui. Et là, le juge lui demande s'il parle au sens propre ou au figuré. Et il répond: Je ne parle qu'au sens propre. Je ne vais pas mourir en prison, monsieur. Ou en tout cas, si j'y crève, c'est en essayant d'en sortir. Le juge lui dit: Vous êtes plutôt intelligent. Vous n'avez pas songé à une vie sociale, professionnelle? Donc là, il lui répond: Mais quand? Quand est-ce que j'aurais pu avoir cette possibilité-là? Et là, il dit, j'ai un souvenir, au bout de la première année au CJD, si on m'avait laissé sortir, peut-être que là, ça aurait pu basculer. Mais au bout de 3 ans là-dedans, les dents étaient un peu plus longues et acérées. Là, le juge lui pose des questions sur ses études et il dit qu'il a essayé de s'inscrire plusieurs fois, donc en détention. Mais de toute façon, j'ai tout le temps été transféré. Alors là, Winter, l'avocat, entre autres de l'UFAP, pénitentiaire, lui demande: Vous pensez à vous évader, c'est votre moteur? Il répond: Ce n'est pas mon moteur, je n'ai pas le choix. Je ne veux pas sortir à 60 piges. Hein?
Petit bug.
Ce serait d'accepter ma peine.
Ouais, c'est ça.
Ouais, soit...
Dis-moi, je ne peux pas sortir à 60 ans. Si je commençais à me raconter ça, c'est que je serais en train d'accepter ma peine. Et c'est hors de question que j'accepte ma peine.
Ok. Et il dit, mon avenir, c'est pas de m'évader, c'est de vivre. Et là, bah, Winter rebondit en lui demandant, mais pour ça, vous êtes prêt à mettre la vie des gens en danger? Et là, lui, il répond, si je pouvais scier un barreau, sortir avec des draps et sortir de la prison, ce serait parfait. Mais avec les prisons d'aujourd'hui, c'est pas comme ça. Pour aller d'un point A à un point B, le point A, c'est mon cercueil, le point B, c'est ma liberté. Forcément, il y a du monde sur la route. Si je m'évade, il y aura des gens qui vont souffrir, de même que j'ai à souffrir de la prison. Et là, Omar intervient pour dire, moi, j'ai entendu le directeur parler avec un autre directeur en disant et en se marrant, Kider, Kider, il est dans une cage à hamster. Super humour de directeur de prison, n'est-ce pas? Et là, le maître Ripper dit, c'est surréaliste de parler de votre CV. Depuis 20 ans, c'est quoi votre vie? Il répond, c'est la prison, j'ai pas connu autre chose. Et Ripper lui demande de préciser quelle prison, et il dit, la plupart du temps, j'étais à l'isolement. J'ai droit à rien, pas de formation, pas de sport, 23 heures sur 24 en cellule. C'est ça ma formation, c'est ça ma vie. Et c'est la fin de la journée du mercredi.